Vous écoutez bien RFI, 3h à Paris, 1h en temps universel.
Mathis Limano.
Au sommaire de cette édition, après les explosions des systèmes de transmission du Hezbollah au Liban, son chef Hassan Nasrallah a pris la parole à Beyrouth cet après-midi, jeudi. Il assure que son mouvement continuera à attaquer Israël pour soutenir le Hamas. Au Rwanda, les premières doses de vaccin contre le Mpox ont été administrées. Mais vous l'entendrez, il en faut beaucoup plus pour contrer l'épidémie. Et puis la Ligue des champions de football se jouait encore ce jeudi soir avec l'entrée en lice du petit poussé français, Brest. Victoire 2-1 avec un but de Magnetti. Sa réaction en fin de journal. Bienvenue. Après les explosions des systèmes de transmission du Hezbollah au Liban, le chef du mouvement islamiste Hassan Nasrallah a pris la parole cet après-midi. Deux jours de suite, mardi et mercredi, des explosions simultanées, c'est-à-dire en même temps, des beepers et des talkie-walkies utilisés par les membres du Hezbollah ont fait 37 morts et 3000 blessés. Ces explosions ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, dans l'est et dans le sud du Liban. Ce jeudi, Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah continuera à attaquer Israël pour soutenir le Hamas.
Après toutes ces blessures et toutes ces douleurs, je dis clairement que quels que soient les sacrifices, quelles que soient les conséquences, les possibilités ou l'horizon vers lequel la région se dirige, la résistance au Liban ne cessera pas de soutenir et d'appuyer les habitants de Gaza, de la Cisjordanie et les personnes vulnérables sur cette terre sainte. Je dis à Netanyahou, à Gallant, à l'armée et à l'entité ennemie. Vous ne pourrez pas ramener les habitants du Nord au Nord. Vous ne pourrez pas ramener les colons, les occupants, les usurpateurs dans les colonies du Nord.
Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. De jour en jour, le bilan s'alourdit en Birmanie après le passage du typhon Yagi. Les inondations ont tué 293 personnes, 89 sont toujours portées disparues selon les autorités. Pour l'ONU, 630 000 personnes pourraient y avoir besoin d'aide. Fait rare, la junte au pouvoir a lancé le week-end dernier un appel à l'aide internationale. La vaccination contre le Mpox a débuté en Afrique. C'est au Rwanda que les premiers vaccins sont administrés depuis mardi grâce à 1000 doses envoyées par le Nigeria. Je vous propose d'écouter le docteur Jean Kaseya, président d'Africa CDC, agence de l'Union africaine pour la santé. Il s'est félicité de cette réussite tout en rappelant que le continent a encore besoin de plusieurs milliers de doses pour lutter contre la maladie.
Oui, nous avons une bonne nouvelle. La plupart de nos communautés et des journalistes nous demandaient « Quand allez-vous enfin commencer la campagne de vaccination ?» Eh bien, nous avons commencé au Rwanda. On m'a dit qu'ils ont commencé il y a deux jours et qu'ils ont déjà vacciné environ 500 personnes à l'aide des 1000 doses qu'ils ont obtenues. Pour autant, ils ont besoin de beaucoup plus que les 10 000 doses qu'ils ont demandées. Lorsque les pays ont envoyé leur planning de campagne de vaccination, ils n'ont peut-être pas réalisé jusqu'où ils pouvaient aller, ni la forte demande de la population pour ce vaccin. Notre équipe travaille avec les pays pour mettre à jour le plan de vaccination. Comme vous le savez, nous parlons de 10 millions de doses et nous nous engageons à faire en sorte que l'Afrique reçoive ces 10 millions de doses au minimum.
As you know, we are talking about 10 million doses and we are committed to make sure that Africa will have these 10 million doses at least.
Le docteur Jean Kaseya, joint par Willy Diallo. La RDC, foyer de l'épidémie de Mpox, doit lancer sa campagne de vaccination le 2 octobre. La République démocratique du Congo compte 24 000 contaminations depuis janvier. La RDC, qui était présente à Paris avec l'Indonésie, la Barbade ou encore la Bulgarie, et ce pour signer l'accord de l'OCDE en faveur de plus de justice fiscale dans les pays en développement. Cette convention permet aux juridictions de taxer jusqu'à 9% des fonds des multinationales qui partent vers des paradis fiscaux à l'étranger. Pour l'instant, 9 pays ont signé l'entente et une dizaine ont manifesté leur intention de le faire. Gali Bonin, elle doit surtout favoriser les pays les plus pauvres.
Cet outil sera utilisé par les pays signataires au moment de négocier de nouveaux traités fiscaux. Si leurs partenaires refusent d'inclure la règle, l'OCDE pourra les défendre. L'ex-directeur des politiques fiscales de l'organisation, Pascal Saint-Amand, est à l'origine du projet.
C'est un progrès significatif pour restaurer davantage les droits d'imposer, notamment des pays en voie de développement, car cette règle, elle va permettre aux pays en voie de développement qui avaient perdu la possibilité de taxer certains profits multinationaux, de la restaurer. Et c'est un droit des pays en voie de développement d'exiger cela de leurs partenaires, donc c'est une bonne nouvelle.
Mais l'application de la Convention reste très complexe. Elle est non contraignante, chaque demande doit être faite individuellement, négociée puis inscrite dans un accord bilatéral. Tove Maria Reiding, du réseau de surveillance financière Eurodad.
D'un point de vue administratif, ce sera très difficile à mettre en place. Évidemment, cette cérémonie de signature donne l'impression qu'on est dans une ère de changement. Jusqu'à ce qu'on se penche sur les détails et qu'on réalise que cette nouvelle règle ne va pas changer grand-chose.
L'OCDE, elle, qualifie cette convention d'avancée majeure pour la justice fiscale. Depuis plus de 10 ans, l'organisation économique s'acharne à réformer la fiscalité internationale.
Gali Bonin, du service économie de RFI. Nouvelle nuit de violence de mercredi à jeudi en Martinique, malgré le couvre-feu préfectoral. Dans un regain de tension contre la vie chère, certains quartiers de Fort-de-France se sont embrasés. Des tirs à balles réelles contre la police n'ont pas fait de blessés, 12 personnes ont été interpellées. La France, qui aura un gouvernement avant dimanche, promesse de Matignon ce jeudi. Après 24 heures de fortes tensions et d'ultimes négociations, Michel Barnier a présenté une proposition d'équipe à Emmanuel Macron. 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Parmi cette nouvelle équipe gouvernementale, 7 macronistes, 3 républicains, le Modem, Horizon et l'UDI devraient aussi être représentés. Politique aussi, mais au Royaume-Uni, puisqu'à quelques jours de l'ouverture du congrès du Parti travailliste, le débat est pollué par une polémique concernant le Premier ministre Keir Starmer. Il aurait accepté des cadeaux depuis 5 ans, dépassant la valeur de 100 000 euros. À Londres, correspondance de Sarah Menaï.
Élu avec triomphe début juillet, Keir Starmer avait promis la transparence, l'exemplarité. Il avait promis de mettre fin à la politique des petits arrangements de ses prédécesseurs conservateurs à Downing Street. Mais voilà que le nouveau Premier ministre britannique se retrouve à son tour dans la tourmente. Lunettes de soleil, place de concert, robe pour Victoria Starmer et places en loge pour assister au match d'Arsenal dont le Premier ministre est un grand fan. Depuis décembre 2019, Starmer et son épouse auraient reçu pour plus de 110 000 euros de cadeaux dont le principal donateur s'appelle Waid Ali, entrepreneur multimillionnaire et membre de la Chambre des Lords. Alors depuis ces révélations, la presse conservatrice s'en donne à cœur joie. Le tabloïd The Daily Mail surnomme désormais Starmer Sir Freebie, Monsieur Cadeau, et parle de champagne socialist, comprenez la gauche caviar. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, beaucoup dénoncent ce qui est qualifié d'hypocrisie de la part du Premier ministre britannique. Sarah Menei, Londres, RFI.
En bref, il demande à Bruxelles des mesures d'aide urgentes, les constructeurs automobiles européens. Des aides pour affronter le durcissement en 2025, des normes d'émissions de CO2, il s'estime incapable de les respecter. En cause, la baisse du nombre de ventes des véhicules électriques. La chaîne de télévision française C8 riposte. Elle a saisi le Conseil d'État après le non-renouvellement de sa fréquence TNT. C8, qui appartient au milliardaire Vincent Bolloré, a écopé de plus de 7 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de son animateur vedette Cyril Hanouna. NRJ12, autre chaîne non renouvelée, avait aussi indiqué la veille saisir le Conseil d'État. Et puis du sport, pour clore votre journal, suite de la première journée de la Ligue des Champions avec une belle soirée pour les clubs français. Monaco a dominé le FC Barcelone 2-1 en principauté et de son côté, Brest, considéré comme l'un des petits poussés de la compétition, a battu les Autrichiens de Sturm Graz sur le même score. Victoire historique puisque les Bretons jouaient là le premier match de Ligue des Champions de leur histoire. Le milieu de terrain Hugo Magnetti a ouvert le score et mis son équipe sur les rails du succès.
C'est sûr que c'est un rêve d'enfant de jouer cette compétition, surtout avec ce premier match, cette première victoire devant notre public, c'est historique, donc on en est tous fiers et on va profiter. C'est une fierté d'avoir marqué ce premier but historique déjà en Coupe d'Europe avec le Stade Brestois, mais plus en Ligue des Champions, donc c'est une très grosse fierté et je suis très heureux d'avoir marqué l'histoire avec ce premier but.
Pour Brest, le prochain match de Ligue des Champions, c'est mardi dans 2 semaines face à Salzbourg. Les autres résultats de la soirée, je vous les donne. L'Atlético Madrid gagne à domicile 2-1 face aux Allemands du RB Leipzig. Ouverture du score d'Antoine Griezmann. Enfin, l'Atalanta Bergame et Arsenal se sont quittés sur un nul 0-0. RFI, presque 3h10, ici dans nos studios à Paris. Merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde. Tout de suite, c'est Priorité Santé. Retour de l'information dans 50 minutes.